Bien. Comment vous allez? Bien. Bon. Eh bien, on va commencer. Seigneur, nous voulons te remercier encore ce matin pour ton amour, pour ta fidélité. Merci de nous avoir ramenés ici, Seigneur. Merci de prendre nos fardeaux. Nous voulons te les laisser, déposer tout à tes pieds, à ta croix, Seigneur. Et nous ne voulons pas les reprendre parce que c'est tellement lourd à porter. Et ce matin, nous voulons être reconnaissants de nous avoir guidés. Fortifie-nous, Seigneur, et si quelqu'un ici ne te connaît pas, ou doute, Seigneur, ou passe par des moments difficiles, permets-lui, Seigneur, de rester toujours accroché à toi, quelles que soient les circonstances. C'est vrai que les mers, les flots, les difficultés vont se déchaîner, mais tu nous promets de traverser tout cela avec toi. Et c'est en ton nom que je te prie. Amen. Dispose nos cœurs, Seigneur. Janelle et Jeff avaient un premier rendez-vous amoureux. Janelle est prête, toute belle, pouponnée, et impatiente que Jeff passe la prendre chez elle pour leur premier rendez-vous amoureux. Les minutes ont passé, attente interminable, et après une heure de retard, Janelle a dû se rendre à l'évidence, Jeff ne viendra plus. Soit il avait oublié, soit il lui avait posé un lapin, comme on dit. Après plus d'une heure de retard, Janelle a décidé qu'il n'était plus raisonnable d'attendre. Alors, elle s'est démaquillée, a enfilé sa paire de pyjamas la plus confortable, à rassembler dans les placards de la cuisine, le frigo, le congélateur, tout ce qui dépassait les 100 calories à la cuillère, et s'est confortablement installé dans son canapé pour regarder la télé avec son chien. Au moment où son programme préféré allait commencer, la sonnette a retenti. C'était Jeff. Elle lui ouvre la porte. Et lui la regarde avec des grands yeux étonnés et dit « J'ai 2 heures de retard et pourtant tu n'es toujours pas prête. » Être prêt. Il y a des moments dans la vie, frères et sœurs, où il faut être prêt. Prêt à l'heure. L'heure, c'est l'heure, dit-on. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Il y a des rendez-vous où la ponctualité est capitale. Et j'aimerais ce matin réfléchir avec vous au rendez-vous du retour de Jésus que Dieu a fixé à toute l'humanité. Rendez-vous pour lequel est appelé l'homme à se préparer. Rendez-vous pour lequel il est capital d'être prêt le moment venu. Et j'aimerais réfléchir à ce rendez-vous du retour de Jésus, du retour de Christ, à partir d'une parabole bien connue, la parabole des 10 vierges. Merci. Et je vous invite à lire avec moi, soit en suivant dans votre Bible, c'est Matthieu chapitre 25, les 13 premiers versets, ou alors en suivant la projection du texte qui va s'afficher. Quelques mots tout d'abord sur le contexte de cette parabole. Nous trouvons au début du chapitre 24. Alors, nous allons prendre déjà le chapitre 25, les 13 premiers versets. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux ! Allons à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de l'huile, car nos lampes s'éteignent !» Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Alors, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. » Quelques mots tout d'abord sur le contexte de cette parabole, chapitre 24, et je vais lire les trois premiers versets de ce chapitre. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples vinrent lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur répondit, « Vous voyez tout cela ? Amen, je vous le dis, il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent lui demander en privé, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus se trouve ici avec ses disciples sous le mont des Oliviers. Nous sommes une semaine avant la crucifixion. Un peu plus tôt, nous venons de le lire tout à l'heure, en sortant du temple, Jésus a annoncé la destruction de celui-ci. Et maintenant, ses disciples s'approchent de lui pour lui demander quand ces choses auront lieu. Et la réponse de Jésus à ces questions, c'est l'ensemble des deux chapitres, hein, 24 et 25. Ce n'est pas une réponse courte, bien sûr. Et beaucoup de choses dans ces chapitres sont dites où vont s'entremêler plusieurs réalités comme la fin des temps, la destruction de Jérusalem et de son temple. Et bien sûr, le retour du Seigneur. Et quand on lit ces deux chapitres, on peut avoir le sentiment que tout arrive en même temps. Et ce sentiment, je pense, vient du fait que tout est annoncé dans une, je dirais, une succession d'événements uniques. Alors qu'en réalité, il s'agit d'une succession d'événements. C'est un peu comme si, lorsqu'on regarde une chaîne de montagnes de loin ou de face, on a l'impression, on a le sentiment que les sommets sont sur un même plan. Alors qu'en réalité, ils se succèdent avec des vallées entre eux. Concernant le retour de Jésus, deux axes majeurs vont parcourir ces deux chapitres. Le premier, c'est que nul ne sait ni le jour ni l'heure de ce retour. Et la deuxième et le deuxième qui découle de ce premier axe, c'est la nécessité, frères et sœurs, d'être constamment, oui, constamment prêt pour ce retour. Sommes-nous prêts ? Je vous ai fait une sélection de quelques versets significatifs à ce sujet dans le chapitre 24, puisque nous n'allons pas les lire, je vous lis quelques versets. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Verset 36 du chapitre 24. Verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne permettrait pas que l'on facture sa maison. C'est pourquoi vous aussi soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Verset 50, le maître de cet esclave viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Avant d'arriver au sens et à l'enseignement de notre parabole, j'aimerais très rapidement et très succinctement dire quelques mots sur ce qu'est une parabole. La parabole, c'est une histoire simple, frères et sœurs, qui va s'appuyer sur le quotidien des auditeurs et qui fonctionne sur le mode de l'analogie, c'est-à-dire le mode de la comparaison. Et c'est ainsi que la grande majorité des paraboles commencent souvent par, comme la nôtre ce matin, par cette formule du genre, le règne des cieux, le royaume de Dieu sera comme ou est semblable à. Et pour bien comprendre une parabole, il est donc essentiel de bien connaître et de bien comprendre le quotidien de l'époque. Bien connaître et bien comprendre les us et coutumes de l'époque, le contexte social de l'époque, l'agriculture de l'époque, etc., etc. Tout ce qui faisait, en fait, le quotidien des auditeurs de Jésus à cette époque. Et bien connaître ces choses, frères et sœurs, nous gardera d'insinuer ou d'introduire dans le texte un sens qui n'y a jamais été. Cela nous gardera aussi, entre autres, de faire ce que l'on appelle des anachronismes, c'est-à-dire des contextes ou des inaptitudes. Venons-en maintenant à l'histoire de notre parabole. De quoi est-il question? Que nous enseigne cette parabole? Que faut-il en retenir? L'histoire de notre parabole est donc une histoire simple, comme je vous ai dit, où Jésus va faire quoi? Il va comparer le royaume des cieux, comme c'est une expression synonyme au royaume de Dieu ou au règne de Dieu, Jésus va comparer cela à une fête de mariage. Une fête de mariage à laquelle se préparent 10 jeunes filles, 10 jeunes vierges qui attendent le marié. Notons, frères et sœurs, que ces 10 jeunes filles ne sont pas les fiancées, comme je l'ai souvent entendu dire, du marié. Il n'est pas question ici de mariage polygame. Ces jeunes filles, on dirait, accompagnaient très certainement la mariée, lui tenaient compagnie, étaient peut-être à son service ou alors appartenaient à la maison de son époux, que sais-je, ou c'était encore des amis ou des voisines. Quoi qu'il en soit, il n'est absolument pas important de savoir qui sont ces jeunes filles, pour bien comprendre le sens de notre histoire. 5 de ces vierges sont dites sages ou avisées. Pourquoi? Parce qu'elles ont prévu assez d'huile pour leur lampe. 5 autres sont dites folles, parce qu'elles n'ont pas prévu suffisamment d'huile pour leur lampe. Les 5 sages et les 5 folles, toutes les 10, donc attendent l'époux. C'est normal. Mais l'époux tarde à venir. Qu'elles font-elles? Elles s'assoupissent et elles s'endorment. Notons aussi que l'endormissement, comme c'est souvent le cas, on l'a dit, dans cette histoire n'est pas important en soi, parce que les sages, elles aussi, s'endorment. Alors, j'ai entendu dire que, ouais, mais l'endormissement, c'est parce qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit en elle. Mais oui, mais les 5 autres, bon, m'a avisé, se sont endormis. Ça voudrait dire qu'elles n'avaient pas le Saint-Esprit non plus. Alors, gardons-nous bien de faire des allusions à ces choses. On ne peut pas toujours être sur le qui-vive. Il ne faut pas chercher de sens particulier à l'endormissement. Finalement, l'époux arrive. Au milieu de la nuit. Pas le jour. Les 10 vierges sont réveillées à ce moment-là et toutes préparent leurs lampes pour suivre l'époux. Les 5 vierges dites folles constatent bien qu'elles manquent d'huile puisque leurs lampes s'éteignent et en manquant d'huile, en cherchent à emprunter aux sages qui, à juste titre, vont refuser. Non pas qu'elles sont égoïstes. Non, pas du tout, frères et sœurs. Parce que la préparation, elle est individuelle. Je ne peux pas me préparer pour l'autre au retour de Christ. Chacun, individuellement, doit prendre ses dispositions pour être prêt. Pour être prêt, pour ne pas être surpris lorsque le Seigneur arrivera. Venons-en au sens de notre parabole. Quel est-il? Nous l'avons dit, frères et sœurs, cette parabole parle du retour de Jésus. Elle parle en particulier de la nécessité d'être constamment prêt pour ce retour, dont nul ne peut prévoir ni le jour ni l'heure. Et donc, j'aimerais, en parlant du retour de Jésus, faire ressortir 5 points de cette parabole. Et la première chose que j'aimerais souligner, c'est que le retour de Jésus nous est présenté comme un événement joyeux. Eh oui, c'est un événement joyeux. L'analogie ici qui est utilisée, c'est celle du mariage, pas celle d'un enterrement. Le mariage est une fête, et une fête, par définition, c'est joyeux, n'est-ce pas? Le retour de Jésus est donc un moment de fête. Ne le ratez pas. Où l'époux, c'est-à-dire Christ, vient chercher son épouse, c'est-à-dire l'Église. Et de nombreux textes de en particulier du Nouveau Testament, que je ne vais pas citer maintenant, utilise ces deux images pour parler de Christ comme l'époux et l'Église de l'épouse. J'aimerais simplement souligner ici que par Église, il faut bien évidemment comprendre tous ceux et celles qui ont mis leur foi dans l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Et non pas tous ceux qui vont une fois de temps en temps à l'Église. Notons que cet événement joyeux ne l'est pas pour tous. Et non, les cinq vierges folles qui n'ont pas assez d'huile sont restées en dehors de la fête, en dehors de la joie. Alors nous, ce matin, où allons-nous rester au retour de Christ? En dehors ou en dedans? Ou avec l'époux? Et c'est ici la triste et sombre réalité de ce que la Bible appelle la perdition. Nous parlons souvent de salut. Mais si nous parlons de salut, c'est parce qu'il y a aussi une perdition. Sinon, de quoi serions-nous sauvés? Si le retour de Jésus est un événement joyeux pour ceux qui rentrent avec lui dans son règne, c'est aussi un événement tragique pour ceux qui restent en dehors. Et Jésus dira, en parlant de cette réalité du dehors, des ténèbres du dehors, qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Si le retour de Jésus est un événement joyeux pour ceux qui sont prêts et qui entreront avec lui dans la noce, c'est aussi, et c'est mon deuxième point, un événement imprévisible. Imprévisible. C'est la conclusion même de notre parabole. Nul ne sait ni le jour ni l'heure. Et c'est l'expérience de nos dix vierges. C'est ce qu'elles vivent, c'est ce qu'elles ont vécu. Rappelez-vous aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul écrit que ce jour du Seigneur viendra comme un voleur. Que le jour du Seigneur viendra comme un voleur, c'est-à-dire quand personne ne s'y attend pas. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 2. Le sujet du retour de Jésus a toujours fait l'objet de toutes sortes de spéculations dans l'Église et parmi tous ceux qui réfléchissent aussi sur la Bible. Et rappelez-vous, ces spéculations ont déjà commencé au temps de Jésus. Par exemple, nous lisons au début du livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 6, Jésus, il est encore avec les disciples, il s'apprête à les quitter, et nous lisons que ceux qui s'étaient réunis lui demandent, « Seigneur, est-ce que c'est en ce temps-ci que tu vas établir le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Toutes sortes de spéculations qui sont inutiles, puisque Jésus dit clairement qu'il n'appartient pas aux disciples de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés selon sa propre autorité. Frères et sœurs d'Argenteuil, ou d'ailleurs s'il y en a, il ne nous appartient pas de connaître ni le jour ni l'heure du retour de Jésus. La part qui nous incombe, c'est d'être prêts. La part qui nous incombe, c'est d'être prêts. C'est la seule chose que le Seigneur nous demande. Prêt à tout moment, puisque son retour est imprévisible. Prêt à tout moment, puisque, à l'évidence, son retour tarde. Et c'est le troisième point que je voudrais souligner maintenant. Un événement tardif, le retour du Seigneur, un événement tardif qui tarde à venir. L'époux attardé. L'époux attardé et les dix vierges se sont endormies. Cela fait maintenant plus de 2000 ans que Jésus est retourné au ciel. Cela fait maintenant plus de 2000 ans que l'Église attend le retour de Jésus. Un retour qui avait été annoncé comme imminent. Et pourtant, c'est un retour qui tarde. Il est important de comprendre ici que notre appréhension du temps n'est pas celle de Dieu. Et que 1000 ans sont à ses yeux comme un jour. C'est d'ailleurs en parlant du retour de Jésus que l'apôtre Pierre va utiliser cette même expression dans sa deuxième épître. Non seulement en parlant du retour de Christ, mais en disant qu'il tarde. 2 Pierre 3:8. Mais il est comme une chose bien-aimée que vous ne devez ignorer, c'est que pour Dieu un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement, non pas du tout, de la promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne souhaite que personne ne se perde. Et oui, ce que Dieu veut, c'est que tous accèdent à un changement radical, à la repentance. Si le retour de Jésus nous apparaît comme tardif, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas la bonne perspective des choses. Car pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Si le retour du Seigneur nous apparaît comme tardif, ce n'est pas parce qu'il est retardé. Ce n'est pas parce que Dieu a oublié. Ce n'est pas parce que Dieu aurait changé d'avis. Mais c'est parce que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Et c'est la raison pour laquelle il use de patience envers nous tous. Attention donc, frères et sœurs, de ne pas trouver dans ce retard un prétexte, une excuse, une raison de baisser les bras et de cesser d'attendre. Un prétexte, une excuse, une raison pour penser qu'il n'est plus raisonnable d'attendre. Un peu comme à l'image de Janelle, cette jeune fille, lors de son premier rendez-vous. Le quatrième point que je voudrais maintenant évoquer, souligner concernant le retour de Jésus avec vous ce matin, c'est que c'est un événement qui demande de la préparation. Alors, je n'ai pas trouvé d'impératif à cela, mais bon, je le définis comme cela. Un événement qui demande de la préparation. Alors, si vous trouvez un adjectif pour cela, pas de souci, je suis preneur. Un événement qui demande de la préparation. Frères et sœurs, êtes-vous prêts? Sommes-nous prêts? Suis-je prêt? Es-tu prêt? Parce que Christ peut revenir à l'instant. Christ peut revenir dans une minute, dans une seconde. Sommes-nous prêts? Avons-nous la justesse d'esprit, de penser que nous avons fait tout ou que nous faisons tout pour être prêts? Notre parabole le souligne très clairement. Souligne très clairement cette nécessité de la préparation. Et parce qu'il y en a 5 qui étaient prêtes et 5 qui pensaient l'être, mais qui ne l'étaient pas. Alors maintenant, il faut quand même répondre à cette question cruciale. Que veut dire se préparer? Et je dois tout de même vous dire ce matin, frères et sœurs, que notre parabole n'aborde pas ce sujet. Elle ne dit pas comment, elle ne parle pas du comment se préparer, mais je peux vous assurer d'une chose. Elle nous met en garde contre le risque d'être pris au dépourvu. Comment? Par manque de préparation. Notons aussi la vigilance nécessaire pour ne pas tomber dans l'allégorisation, c'est-à-dire qui consiste à exprimer une pensée sous forme imagée afin de comprendre, faire comprendre un autre sens, un sens à viser par le texte. Beaucoup l'ont fait. Et c'est souvent le risque, frères et sœurs, le piège que l'on fait avec les paraboles, c'est que l'on commence à trouver toutes sortes de sens et d'explications à tous les détails du texte. Or, pour moi, pour ma part, dans une parabole, les détails sont là pour faire vivre l'histoire. Et l'histoire a toujours une vérité enseignée et non une multitude de choses à enseigner. Et certains, par exemple, ont vu dans l'huile le Saint-Esprit. C'est vrai que c'est une image de cela dans la parabole, les bonnes œuvres et toutes sortes de choses qu'il faudrait faire pour être prêt. Pour ma part, je pense qu'il ne soit pas nécessaire dans cette parabole de comprendre les choses ainsi. En réalité, je pense que l'huile n'est qu'un détail du texte pour rendre cette histoire cohérente et qui souligne la nécessité d'être prêt. Et c'est vraiment ce que cela enseigne. Parce que si vous n'avez pas d'huile, vous ne serez pas prêts. Comment se préparer? Eh bien, c'est simple. En acceptant Jésus comme son Sauveur et Seigneur, en mettant sa foi dans son œuvre de salut, en reconnaissant que l'on est pécheur et que seule la grâce de Dieu peut nous sauver, en demandant pardon à Dieu pour nos péchés, en devenant disciple de Jésus, en devenant membre de son corps, l'Église qui est aussi son épouse et qu'il reviendra chercher. Cette préparation est indispensable. Indispensable. Et en nous appuyant sur notre parabole, nous pouvons dire qu'il ne pourra pas être fait au dernier moment. Ce n'est pas comme le brigand sur la croix où il acceptait Christ. Non. Là ici, lorsque la porte de la grâce sera fermée, frères et sœurs, il sera trop tard. Il sera trop tard. Et nous l'avons vu pour ces cinq vierges folles qui n'avaient pas pris, qui ne s'étaient pas préparées en prenant de l'huile, elles sont parties en chercher. Entre-temps, frères et sœurs, que s'est-il passé? L'époux est arrivé. Et la porte fut fermée. Et le Christ leur a dit, « Je ne vous connais pas. » Préparation indispensable. Il y a des moments dans le temps de Dieu, frères et sœurs, un moment dans le temps de la grâce qui s'appelle trop tard. C'est pourquoi quand la Bible parle du salut, il est dit toujours que le jour du salut, c'est aujourd'hui. Jamais demain. Le jour du salut, c'est aujourd'hui. Jamais demain. Parce que demain ne nous appartient pas. Jamais demain, parce que demain, le retour de Jésus peut avoir lieu aujourd'hui. Et qu'il sera impossible de se préparer au dernier moment. Cela me rappelle que cette légende que l'on m'a raconté un jour, et qui rapporte que Satan se tenait, écoutez bien, hein, Satan se tenait pensif sous son trône, entouré de toute sa cour. Et Satan pose la question suivante. Qui veut aller perdre des âmes? Un des démons s'avance et dit, « J'irai, je leur dirai qu'il n'y a pas de Dieu. » Satan lui dit, « Cela ne suffit pas, cela ne suffira pas. Les hommes savent très bien qu'il y a un Dieu. Ils ne te croiront pas. » Un autre démon arrive, « J'irai. » Et je leur dirais qu'il y a un Dieu, mais qu'il est trop difficile à servir. Trop de privations, pas de mariage pour tous, pas de boîte de nuit. Satan lui dit, cela encore ne réussira pas, dit Satan, parce qu'ils chercheront en Jésus le pardon de leurs péchés et ils le recevront. Alors, un troisième démon sortit des rangs et dit, je leur dirais qu'il y a un Dieu qui est juste et bon. Mais pas en tout temps. Je leur dirai qu'ils peuvent entendre l'évangile à satiété. Je leur dirai qu'il faut qu'ils se convertissent. Mais j'ajouterai, rien ne presse. Vous avez le temps. Il suffit que vous fassiez cela demain. Pas aujourd'hui. Alors, Satan lui dit, va. Tu réussiras à me ramener quelques-uns de ces âmes. Certains vont se laisser prendre au piège. Oui, une des ruses certaines les plus efficaces de Satan, une de ces tromperies, frères et sœurs, dont nous pouvons malheureusement vérifier l'étendue ici, est certainement de faire croire aux hommes que rien ne presse. Qu'il sera bien assez tôt demain pour se soucier de ces choses-là. Va, danse, bois, mange, prends ton pied, demain tu t'en occuperas. Mais demain, il sera trop tard. La porte de la grâce, frère Roland, sera fermée.
Pour cela,
il y a le réseau qui... Donc voilà, C'est ce que je voulais partager avec vous, frères et sœurs. Il faut être prêt. Nous devrions être prêts. Et le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est que c'est un événement décisif. Décisif dans notre vie. Décisif dans notre vie d'église, dans notre vie de couple. Décisif si nous devrions voir nos frères, nos sœurs, nos amis, nos parents, un jour dans les lieux célestes, s'ils ont accepté le Seigneur. Frères et sœurs, j'ai besoin de vous poser la question, de nous poser la question ce matin. Sommes-nous prêts? Suis-je prêt? Es-tu prêt? Au retour de notre Seigneur. Es-tu prêt au retour de notre Seigneur? Oui, je m'en occuperai demain, quand les enfants auront grandi, quand on aura fini de construire la maison, quand j'aurai terminé mes études, quand je serai marié, quand je serai à la retraite, demain. Et c'est ainsi que beaucoup repoussent à demain, c'est-à-dire à jamais, la décision du salut qu'ils devraient prendre aujourd'hui. Mais un jour, le temps de la grâce, il y a un jour où ce sera trop tard. Frères et sœurs, le retour de Jésus demande que l'on s'y prépare. Et nous constatons avec notre parabole que la préparation de quelqu'un n'est pas transmissible. Je ne peux pas me préparer pour la sœur Éléonore. Et elle ne peut pas se préparer non plus pour moi. Les cinq vierges folles ont voulu emprunter de l'huile aux cinq vierges sales qui ont refusé. Elles n'étaient pas égoïstes pourtant, mais parce que la préparation pour le retour de Jésus, c'est une affaire personnelle. C'est quelque chose qui ne se transmet pas, pas même aux parents des enfants. Non, il n'est pas suffisant d'être né dans une famille chrétienne, une famille croyante, une famille pratiquante, une famille qui vient tous les jours, tous les dimanches à l'église. Non, il n'est pas suffisant de fréquenter l'église avec assiduité. Il n'est pas suffisant d'être bon, généreux, d'avoir beaucoup d'œuvres à son actif. Il n'est pas suffisant de faire toutes sortes de sacrifices pour Dieu. Il n'est pas suffisant de connaître et de fréquenter des personnes qui sont prêtes. Et beaucoup se trompent de préparation et pensent être prêtes pour les raisons que je viens de citer. Avons-nous peur que le Christ puisse nous dire à son retour, « Je ne vous connais pas. » Et cette triste réalité, Jésus en parle à plusieurs endroits. En Matthieu, d'ailleurs, chapitre 7, verset 21, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent, « Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons parlé en prophète, par ton nom que nous avons chassé des démons, par ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? À l'évidence, c'est le cas. Alors je leur dirai, je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. La préparation pour le retour de Jésus est une affaire personnelle que personne ne peut faire pour quelqu'un d'autre. Et je peux avoir toutes sortes de choses extraordinaires dans ma vie. Je peux être un bon chanteur, un bon prédicateur. Oui, mais si je n'ai pas fait cette préparation pour attendre le retour de Christ en toute sérénité, il me dira, je ne te connais pas. Décisif parce que c'est déterminant. Décisif parce que nous donnons foi à notre texte de la Bible. Seuls ceux qui sont prêts entreront avec l'époux. Décisif parce que ceux qui ne sont pas prêts resteront en dehors, dans les ténèbres du dehors. Décisif parce que le moment venu, il sera trop tard pour se préparer à être invité à la noce. Décisif parce qu'il n'y aura pas de deuxième chance. Décisif parce que le retour de Jésus correspondra au trop tard de la fin de la grâce. Alors permettez-moi de vous reposer la question, de nous reposer la question. Sommes-nous prêts? Suis-je prêt? Es-tu prêt? Sommes-nous prêts pour le retour de Jésus? Si Jésus revenait, frères et sœurs d'Argenteuil, si Jésus revenait maintenant, aujourd'hui, entrerons-nous avec lui dans la joie de son règne? Ou resterons-nous dehors? Si Jésus revenait maintenant, aujourd'hui, que nous dira-t-il? Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, ou alors, je ne te connais pas. Que le Seigneur nous aide, chacun à bien comprendre, et à bien comprendre le message de notre parabole, qui nous invite chacun, ce matin, à nous préparer pour le retour du Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à quelques instants de silence. Je vais prendre ce temps de silence. Nous allons faire silence dans nos cœurs.